Il est 5h sur Europe 1.
Nous avons demandé l'ouverture d'un maximum de centres de vaccination et d'ailleurs la création de centres éphémères supplémentaires partout où cela sera jugé utile, de manière à vacciner pendant tout ce week-end.
L'accélération de la vaccination plutôt que le confinement, c'est la stratégie choisie par le gouvernement. Seul le Pas-de-Calais va découvrir à partir de ce soir le confinement le week-end. Dans les EHPAD, les mesures vont être assouplies, annonce du Premier ministre Jean Castex, qui estime que la vaccination massive des résidents rend cette évolution possible aujourd'hui. Et puis le cannabis thérapeutique va donc être expérimenté en France, une perspective salutaire pour certains patients condamnés jusqu'à présent à souffrir faute de traitement supportable.
Les sports à suivre. Notre pressing du matin et puis les doigts dans l'assiette avec nos agriculteurs et nos artisans. Nous serons dans les Pyrénées-Orientales chez notre éleveur de porc ce matin. Bienvenue à tous, bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
23 départements placés sous surveillance renforcée, mais un seul concerné par le couvre-feu à partir de ce week-end, le Pas-de-Calais. Le gouvernement privilégie donc l'accélération de la vaccination au confinement de la population. On l'a compris en écoutant hier le Premier ministre Jean Castex. Bonjour Victor Dolande.
Bonjour.
Alors pour l'heure en France, 3,2 millions de personnes ont reçu au moins une injection de vaccin, 1,8 million de doses. Et quand on regarde les livraisons de doses plus importantes dans les prochaines semaines, le gouvernement fait des projections plutôt optimistes.
Oui, d'ici la mi-avril, 10 millions de personnes pourraient être vaccinées, soit la totalité des personnes vulnérables. D'ici la mi-mai, 20 millions de Français pourraient avoir reçu au moins une injection. Et d'ici l'été, ce sont 30 millions de personnes qui pourraient être vaccinées, soit les deux tiers de la population de plus de 18 ans. Et cette accélération devrait se concrétiser dès ce week-end, comme l'a expliqué le ministre de la Santé, Olivier Véran.
Nous avons demandé l'ouverture d'un maximum de centres de vaccination et d'ailleurs la création de centres éphémères supplémentaires partout où cela sera jugé utile, de manière à vacciner pendant tout ce week-end.
Certains centres devraient même rappeler des personnes sur liste d'attente dans les tout prochains jours. Un effort supplémentaire sera aussi consenti dans les départements placés sous surveillance renforcée. Ainsi, 135 000 nouvelles doses seront allouées dès aujourd'hui dans ces territoires, dont 10 000 dans le Pas-de-Calais. Olivier Véran a également rappelé à l'ordre les médecins généralistes, sommés de ne pas laisser dormir des vaccins dans les frigos des pharmacies. Et puis, dernier levier pour accélérer cette campagne, à partir du 15 mars prochain, les pharmaciens seront autorisés à vacciner directement dans leurs officines.
Merci pour ces explications. Victor Dolande.
Parmi les mesures annoncées hier, on trouve aussi la fermeture de centres commerciaux. Dès ce soir, hein, une mesure qui varie selon les territoires concernés, Carole Ferry.
Oui, alors les professionnels craignaient une fermeture des commerces dès 5000 m2, comme à Dunkerque et dans les Alpes-Maritimes. Finalement, seul le Pas-de-Calais devra se plier à cette règle. Dans les autres départements à risque, les magasins devront fermer quand ils ont une surface supérieure à 10 000 m2 et la différence est loin d'être négligeable. En Ile-de-France, par exemple, 64 magasins sont concernés, des Castorama, Boulanger ou encore le Printemps Nation à Paris, par exemple. Ça aurait été trois fois plus si la barre avait été maintenue à 5 000 m2. En revanche, il n'y aura pas d'exception pour les commerces dits essentiels. Les magasins de bricolage, d'informatique ou de jardinerie qui avaient pu rester ouverts au premier confinement devront bien baisser leurs rideaux comme les autres. Seule l'alimentation a le droit de rester ouvert. Reste maintenant à négocier les aides qui accompagneront cette décision. La question n'a toujours pas été totalement tranchée pour les commerces de plus de 20 000 m2 fermés partout en France depuis un mois.
Merci Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Jean Castex a également profité de ce point presse pour évoquer le sujet des EHPAD, un sujet qu'Europe 1 abordait déjà il y a deux semaines avec ce témoignage. Souvenez-vous, Madeleine, 94 ans, elle vit dans une maison de retraite à Sartrouville dans les Yvelines et comme beaucoup de résidents à travers la France, elle demande d'être un assouplissement du protocole sanitaire.
J'aimerais bien retrouver un peu de liberté. Liberté de pouvoir recevoir les gens, mes amis. On a pris justement ce risque de se faire vacciner. C'était pour avoir un petit avantage dans notre vie.
Et cet avantage ?
Eh bien, on ne l'a pas. On ne l'a pas, on est resté au même stade qu'avant la vaccination. Vous voyez, je me dis dans ma tête, si j'étais jeune, je me dirais, bon, ben, ça m'a un moment à passer, mais on récupérera. Mais moi, je n'ai pas de temps à attendre. J'en ai pas.
Madeleine, cette résidente d'un EHPAD qui espérait donc voir le protocole sanitaire assoupli maintenant que la vaccination est largement répandue dans ces établissements. Jean Castex a répondu hier à cette impatience.
C'est une incontestable réussite que d'avoir réussi cette vaccination. La voie est désormais ouverte à une adaptation des règles qui régissent la vie sociale, des résidents et notamment l'exercice du droit de visite pour les familles. Nous avions anticipé ce sujet humainement majeur en saisissant le Haut Conseil de Santé publique qui vient de nous rendre ses préconisations que nous allons mettre en œuvre très rapidement après concertation.
Jean Castex qui a également solennellement appelé les personnels de ces EHPAD à se faire vacciner très rapidement.
L'épidémie de Covid, c'est une crise sanitaire, mais c'est aussi, on le sait, une crise économique.
Plus de 2 millions de personnes bénéficient de l'aide alimentaire en ce début d'année en France, et plus de la moitié y a recours depuis moins d'un an. C'est donc bien un impact de cette crise que tentent d'atténuer notamment les Restos du Cœur qui lancent aujourd'hui leur collecte. Ça va durer tout le week-end et Yasmina Katou, les bénévoles ont dû s'adapter aux contraintes sanitaires.
Effectivement, dans l'Orne, en Normandie, les Restos du Cœur ont dû s'organiser avec un peu moins de bénévoles cette année. Majoritairement retraités, certains volontaires étaient craintifs. Ceux présents auront un masque FFP2. Tout est pensé pour que les gestes barrières soient respectés, explique Catherine Weber de Riz, responsable départementale.
Il va y avoir des chariots, des cartons, et au lieu de donner des sacs plastiques pour que les gens mettent les achats qu'ils veulent nous donner dans ce sac plastique et nous les mettent dans les chariots, et bien là, ils vont les sortir de leur chariot ou dans leur sac propre et nous le mettre dans le chariot directement. Mais il n'y a pas de contact physique de main à main.
Du côté de Dunkerque, où la situation épidémique est critique, la collecte est tout simplement reportée. Mais en attendant, Isabelle Cousin, responsable départementale, espère ne pas manquer de denrées.
Ce qui nous manque très souvent au niveau des approvisionnements, ce sont des produits frais. Par exemple, les légumes frais, les fruits frais. Alors à nous à trouver au niveau des invendus des grandes surfaces et moyennes surfaces pour avoir ces produits.
Sur toute la France, seulement 10 départements reportent leur collecte qui devrait avoir lieu après l'été.
Merci Yasmina Katou.
Il est 5h07 sur Europe 1. Jean Castex et le ministre de l'Intérieur sont attendus aujourd'hui à Beauvais, théâtre de violences nocturnes.
Il y a eu depuis dimanche, tous les soirs, des tirs d'artifice et de mortiers, des poubelles et des véhicules incendiés. 3 policiers ont été blessés et des pompiers ont été pris à partie dans la préfecture de l'Oise. Des violences urbaines ont également été observées à Lyon hier soir, des heurts dans le quartier de la Duchère entre les forces de l'ordre et des habitants qui accusent la police d'être responsable d'un accident de scooter mercredi. Un adolescent avait été grièvement blessé. La police dément être impliquée.
La France s'apprête à se lancer dans l'expérimentation du cannabis thérapeutique.
L'Agence nationale du médicament a donné son feu vert hier. L'expérimentation va débuter à la fin du mois. Elle concerne des patients dont les douleurs ne peuvent pas être soulagées par les médicaments actuels. 3000 volontaires vont être recrutés. Et parmi les candidats et candidates, Valérie Gisclard, 53 ans, elle souffre de plusieurs maladies chroniques, dont une leucémie. Et jusqu'à présent, seul son mental lui permet de lutter contre les douleurs.
En fait, j'ai appris à rehausser le seuil de la douleur, puisque je suis allergique aux morphiniques, aux opiacés. Je suis intolérante XXL à la codéine. Donc finalement, il commence à plus rester grand-chose. Mais il arrive à un moment donné où on a beau avoir un mental, je suis à un moment donné fatiguée. Je suis fatiguée de souffrir et il faut bien trouver des solutions. Alors ça peut faire peur parce que quand on entend cannabis, on n'a pas toutes les informations au jour d'aujourd'hui. Mais vraiment, si je vais fumer mon petit joint tranquille avec ma petite plantation à la maison, je risque de me faire plus mal. Donc j'essaye d'être intelligente et de pas détraquer tout ça. L'intérêt, c'est d'être suivie par un médecin, par une équipe pluridisciplinaire de la douleur et qui puisse m'accompagner sur la prise de ce cannabis thérapeutique. Maintenant, j'attends pas non plus un remède miracle, il faut pas non plus... Mais si un patient sur 15 est déjà soulagé, c'est déjà gagné.
Le témoignage de Valérie Gisclard, candidate donc pour expérimenter le cannabis thérapeutique. Elle était au micro d'Anne Le Gall pour Europe 1.
On termine en musique et le chanteur Raphaël est de retour aujourd'hui avec un album écrit et composé pendant la pandémie.
Haute Fidélité, c'est le titre de cet album, le 9e de Raphaël, 12 titres rock qui rappellent, d'après notre spécialiste Angèle Châtelier, les grandes heures de Noir Désir ou d'Alain Bachung.
Personne n'a rien vu de mon amour.
J'ai toujours aimé un peu les maquettes, les démos, les trucs quand on sent la transpiration. Et là, je voulais à la fois avoir le son haute définition du studio et en même temps avoir la chose directe de l'émotion de départ.
On entend dans ce titre, Si tu pars, ne dis rien, la voix de Clara Luciani. La chanteuse Pomme aussi apparaît sur cet album.
Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleure.
Pomme, elle m'a contacté par les réseaux sociaux et j'avais écrit cette chanson, Le train du soir, qui raconte comme un crash amoureux, quoi. Ça s'est fait très naturellement.
Mais je ne pleurerai pas.
On comprend que c'est l'amour, le fil rouge de cet album.
C'est ce qui m'intéresse le plus dans la vie, c'est ce dont j'aime le plus parler. C'est... En plus, les chansons, ça permet ça.
Et ça permet aussi de rendre hommage à des amis disparus, comme Christophe, à qui vous dédiez la chanson Norma Jean.
L'intégralité du disque était finie quand Christophe est mort. J'ai rajouté cette chanson parce que j'étais très affecté, comme beaucoup de gens, comme la France entière. Quoi. Tout le monde aimait Christophe.
Plaqué dans le rouge pour cette régate sans voile. À presto. À presto.
Haute fidélité, c'est le titre donc de ce 9e album de Raphaël qui sort aujourd'hui.
C'était le journal de Rémi Botsaron. Il est 5h10. Bonjour Cyril de la Morinerie.
Bonjour.
On commence par de la voile, votre journal des sports oui. Ce matin. L'édition du Vendée Globe touche bientôt à sa fin. Il y a encore un concurrent en mer, sauf Avary. Le dernier va passer la ligne aujourd'hui.
C'est ça, un peu plus d'un mois après l'arrivée de Charlie Dalin, de Yannick Bestaven, notamment au Sable d'Olonne. Le Finlandais Ari Uusela est attendu au ponton d'honneur. Le navigateur de 58 ans aura passé 116 jours en mer, et 116 jours de mer en plus que les premiers. Il s'apprête à être le 25e concurrent à terminer le Vendée Globe sur 33 au départ, soit 8 abandons seulement. C'est une première dont se félicite le directeur de course, Jacques Carès.
Je suis complètement bluffé par le fait qu'on a 80% des bateaux à l'arrivée. C'est très important. Ça prouve bien que la préparation et le niveau sportif a largement augmenté d'une édition à l'autre. D'habitude, on a du mal à atteindre les 50% d'arrivée. Et ça, c'est important. C'est un gage aussi de confiance pour faire la course. Et on voit bien que les concurrents aujourd'hui sont de plus en plus préparés, autant techniquement que finalement sportivement et mentalement.
Propos recueillis par Corinne Boulou, arrivée prévue entre 7h30 et 13h30 aujourd'hui.
Le rugby et Bernard Laporte est attendu aujourd'hui au ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Le président de la Fédération française de rugby va s'entretenir avec Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu. Rendez-vous fixé à 8h ce matin. La ministre déléguée au sport lui avait demandé de mener une enquête interne après l'apparition d'un cluster qui a entraîné le report du match France-Écosse. Dans ce rapport, Fabien Galthié, qui avait assisté à un match de rugby de son fils, est dégagé de toute responsabilité. Autre rendez-vous important avec les pouvoirs publics aujourd'hui, cette fois avec les principaux dirigeants du foot français. Le président de la Ligue, Vincent Labrune, entouré de quelques patrons de clubs, doit rencontrer les cabinets des ministères des Sports et des Finances afin de réfléchir à de nouvelles aides pour le foot professionnel.
En bref, le Stade Rennais a trouvé le remplaçant de Julian Stéphan.
Et comme prévu, c'est Bruno Genesio qui a été nommé à la tête de l'équipe bretonne. L'ancien entraîneur de Lyon qui était parti en Chine sera présenté à la presse en début d'après-midi. Il débutera à Marseille le 10 mars avec le Stade Rennais en Ligue 1. Le début des 16e de finale de la Coupe de France. Les premiers matchs ce soir au Bagne, club de 4e division affronte Toulouse qui évolue en Ligue 2. Beauvais 4e division face à Boulogne qui joue un échelon au-dessus. Coup d'envoi à 21h.
Le judo est la grande déception pour la Fédération française.
Oui, le prestigieux tournoi de Paris-Bercy qui traditionnellement se tenait en début d'année a été repoussé au mois d'octobre. Conséquence, il sera beaucoup moins attractif car le tournoi parisien ne sera pas qualificatif pour les Jeux Olympiques. Ce que regrette vivement le nouveau président de la Fédération française de judo, Stéphane Nomis.
Perdre sur le tournoi qualificatif dans son pays, c'est quand même gênant. En plus, c'était notre 50e anniversaire. Mais quand on a été voir tous les tournois du monde, c'est le plus grand tournoi du monde. Le mois d'octobre, c'est pas la même fête. Moi, je sais très bien qu'après les Jeux Olympiques, les meilleurs athlètes olympiques ne seront pas là. Pour les champions et les médaillés, il va y avoir un vrai repos juste après.
Stéphane Nomis, le nouveau président de la Fédération française de judo avec Axel May.
Cyril de la Morinerie pour les sports. Merci, les 5h14. Et voici le pari gagnant du jour. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Sébastien. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Laval. Et mon pari gagnant sera le 406 Erois Cobello. Titulaire de 4 victoires lors de ses 6 dernières tentatives au trot monté, ce trotteur athlétique, taillé pour réussir avec la selle sur le dos, ne cesse de progresser à chacune de ses sorties. Dur et tenace, quel que soit le parcours, et capable d'adopter toutes les stratégies de course, il peut être considéré ici comme une certitude à l'arrivée. Alors notez bien, pour cet après-midi à Laval, réunion 1 dans la 4e course, le numéro 6, Erois Cobello.
C'est noté Thierry Léger, on vous retrouve tout à l'heure pour les pronostics du Quintet.
Europe 1.
Il est 5h15, merci de nous rejoindre au réveil sur Europe 1. On va tranquillement ouvrir les journaux de ce vendredi, vous raconter les quelques histoires qui nous ont marquées ce matin. Ombline, quelle est la vôtre?
Selon un audit dévoilé par Libération aujourd'hui, 90% des femmes victimes de violences conjugales seraient satisfaites de l'accueil dans les commissariats et les gendarmeries. C'est un chiffre qui ne correspond pas aux observations des associations.
Avec des témoignages ce matin assez, oui. Assez effarants dans Libération. L'écoute de la parole des femmes dans les commissariats. Et puis je vous donnerai quelques chiffres de l'immobilier. Et ça baisse. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs.
5h17 sur Europe 1, le confinement est confirmé pour le département du Pas-de-Calais. Il débutera ce soir à 18h pour l'ensemble du week-end. Confirmation hier par Jean Castex qui annonce également que ce sont désormais 23 départements qui sont sous surveillance. Alors que le Brésil vit lui sa semaine la plus meurtrière depuis le début de l'épidémie, le président Jair Bolsonaro appelle les habitants à, je cite, arrêter de geindre. Il fustige les mesures prises par plusieurs villes dont Rio, et cela alors que 260 000 personnes ont déjà été victimes du virus dans le pays. Et puis, plus de peur que de mal finalement pour des dizaines de milliers d'habitants en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Zélande et au Vanuatu. Ils avaient fui vers l'intérieur des terres après une alerte au tsunami. Le séisme enregistré près des îles Kermadec n'a finalement pas provoqué la vague redoutée. L'alerte est levée.
Europe 1.
Allez, c'est parti pour le pressing du jour. Avec Omblin Roche et Martin Lange, on commence par les unes de vos journaux. Et ce sont les déclarations d'hier du Premier ministre qui font la une un peu partout. Vaccination à haute dose, titre Midi Libre. Objectif, 20 millions de vaccinés d'ici à la mi-mai. Le chiffre fait aussi la une de l'Ardennais, de l'Union. Il faut accélérer, écrit la Dépêche du Midi, qui retient que 30 millions de personnes devront être vaccinées d'ici à l'été. L'accélération, c'est aussi à la une du Parisien aujourd'hui en France. Quand le Figaro pointe, lui, le grand désordre au niveau européen, entre les retards de livraison et les pays qui font cavalier seul et qui commandent leurs propres vaccins en Chine ou en Russie ou encore en Israël. Vos journaux s'intéressent aussi aux chrétiens d'Orient ce matin qui attendent la visite du pape en Irak. Toute première fois, titre Libération avant ce voyage historique. L'audace du pape François, écrit La Croix. On y reviendra tout à l'heure avec mon invité à 5h40. Voici d'abord les trois histoires qui ont attiré notre attention ce matin. Et Omblin, la parole se libère sur les violences conjugales, on le sait, mais encore faut-il qu'elles soient écoutées et bien écoutées.
Oui, j'ai besoin qu'on me dise pourquoi on ne l'a pas écoutée. Ce sont les mots de Lucien Douib, le père de Julie qui a été tué par son compagnon. La trentaine d'allers-retours à la gendarmerie pour dénoncer la violence du père de ces deux garçons ne l'aura pas sauvé. C'est la une de Libération et ce quotidien, le quotidien aujourd'hui, révèle le résultat d'un audit de l'accueil des femmes par les forces de l'ordre. 90% des victimes se disent satisfaites de la façon dont elles ont été reçues, une donnée rassurante, voire encourageante. Et puis vous lisez la suite de l'article, vous lisez les témoignages qui s'enchaînent et ce résultat semble être aux antipodes de la réalité du terrain, ce qui est pointé du doigt par les associations. Ce sont les espaces ouverts, la promiscuité, le témoignage d'Isabelle par exemple, enceinte, elle raconte que la porte était ouverte lorsqu'elle a porté plainte et une policière faisait des commentaires. Son conjoint l'a étranglée et jetée par terre pour qu'elle fasse une fausse couche. Interrogatoire à charge, demande de preuves, paroles remises en question, certaines plaintes sont classées sans suite, sans prévenir la victime. Plusieurs plaintes, parfois, classées sans suite. Dans le cas de Tiffen, frappée, violée pendant des mois, la policière trouve le moyen de rire. Tiffen reviendra quand même 10 fois. Ils finiront bien par en avoir marre et m'écouter. Les viols conjugaux sont très difficiles à décrire. Ça devient un supplice devant des gendarmes qui parfois soupirent lorsque la victime devant eux hésite. Si le problème, finalement, c'était elle et son manque de libido.
Ah oui. Ouais. On leur répond ça. On lui répond ça. Ouais. Si le problème, c'était
puis,
vous.
Et tous les couples ont des problèmes aussi. Si ces femmes battues ne sont pas moquées, dit le journal, elles sont éconduites. On leur dit que ce n'est pas le jour, qu'une plainte ne servira à rien. On leur dit d'arrêter de venir. Le rôle du policier n'est pas de réconforter, évidemment. Il faut le rappeler. La ministre en charge de la citoyenneté, Marlène Schiappa, a accordé une interview à Libération. Dans ce même dossier, elle souhaite que le travail continue, que le lien entre les femmes et la police soit conforté. Il y a encore un peu de travail.
Ouais, il y a des formations, notamment désormais des policiers pour recueillir au mieux cette parole dans des commissariats qui ne sont pas forcément très confortables aussi. Donc il y a plein d'aspects qui jouent, évidemment. Ce n'est pas si simple, mais il faut écoutez mieux, écoutez, c'est clair, c'est la une de Libération avec beaucoup de témoignages ce matin. On va s'arrêter maintenant sur ces chiffres que publie aujourd'hui en France, de nouveaux chiffres sur les prix de l'immobilier qui montrent que ça y est, la baisse a vraiment commencé, y compris dans les grandes villes et y compris à Paris. Si on regarde la capitale, 10 600 euros le mètre carré en moyenne au mois d'avril, c'était 10 800 au mois de novembre dernier. Et sur un an, la baisse atteint presque 2%, 1,8 selon Meilleurs Agents. Le journal explique que toutes les grandes agglomérations ont connu des baisses de prix depuis la fin de l'été. Lyon, Toulouse, Marseille, il y a moins d'acquéreurs, les notaires le confirment, et l'explication, c'est en partie cette lassitude de devoir subir les inconvénients d'une grande ville sans pouvoir en profiter des avantages.
Ça va changer.
On connaît tout ça. Plus le fait qu'avec le télétravail, évidemment, la proximité avec le bureau n'est plus vraiment un critère. Alors c'est surtout les grands appartements qui subissent le décrochage, un peu moins les petites surfaces. En gros, ce sont les couples avec enfants qui sont moins disposés à investir en ville. Les étrangers non plus ne sont plus là. Même phénomène à Lyon, coup de frein après 10 ans d'une hausse effrénée, moins 1,3% sur les 3 derniers mois. Et les villes moyennes, elles, encaissent finalement un peu mieux le choc. C'est l'autre enseignement, parce que le marché dans les villes moyennes est moins spéculatif. Alors il y a surtout de l'attentisme finalement, disent les experts, qui anticipent que l'immobilier repartira et assez vite avec le printemps. D'autant que les crédits sont toujours à des taux très bas. Vous retrouvez la carte complète avec tous les chiffres dans Aujourd'hui en France, ce matin. Martin, on va terminer avec vous.
Tout à fait. Alors avec cette vente inédite, hein, car ce qui est à vendre est virtuel. Ce sont des bitcoins, cette crypto-monnaie dont le prix flambe en ce moment. Alors c'est le Figaro qui nous raconte cette grande première en France avec un vendeur lui aussi inédit, l'État. Alors cette vente, elle aura lieu le 17 mars prochain, organisée par la maison de vente Capengemi Morange. 611 bitcoins précisément, hein, avec des enchères qui pourraient rapporter plus de 25 millions d'euros. C'est pas rien. Alors d'où viennent ces bitcoins? Ils ont été saisis par l'Agrasc. C'est une structure qui dépend du ministère de la Justice et qui est chargé de revendre tous les biens saisis par l'État. Alors, d'habitude, c'est des voitures, des immeubles, des bateaux, mais là, ça n'est jamais arrivé.
Ils ont trouvé des bitcoins.
Elles doivent revendre des bitcoins. Ils ont saisi des bitcoins, exactement.
C'est un trésor pour l'État. 25 millions d'euros, vous dites.
Oui, au cours actuel, hein, c'est-à-dire 41 000 euros, le bitcoin, cette vente pourrait rapporter près de 26 millions d'euros aux caisses de l'État. C'est énorme. D'ailleurs, pour augmenter l'engouement, la maison de vente a décidé de scinder l'ensemble des bitcoins en 479 lots. Vous pourrez donc acheter un lot de 0,011 bitcoin, c'est le plus petit. Hein. Ça coûte environ 4 500 euros, c'est presque accessible. Ou alors un lot de 20 bitcoins, c'est le plus gros. Et là, le tarif est prohibitif, hein, plus de 800 000 euros.
Alors, c'est une première en France, cette vente aux enchères de Bitcoin saisie par la justice. Mais d'autres pays l'ont déjà fait.
Oui, les États-Unis notamment. L'affaire la plus connue, c'est Silk Road. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de Silk Road. C'était une plateforme sur le Darknet, le web profond, où l'on pouvait acheter des produits illégaux, des armes, de la drogue, en échange de crypto-monnaies, donc de bitcoins. Son fondateur, Ross Ulbricht, a été condamné à la prison à perpétuité. Et l'État américain avait organisé en 2014-2015 4 ventes pour écouler les 144 000 bitcoins saisis. Malheureusement, à l'époque, le bitcoin valait beaucoup moins cher, entre 350 et 1200 dollars l'unité. Aujourd'hui, hein, ce magot vaudrait plus de 7 milliards de dollars.
Et voilà. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'entre-temps, les prix ont explosé. Alors, on verra si ça se vend au prix du marché ou pas, puisque c'est une vente aux enchères. Après, mais ça se trouve, c'est une bonne affaire. On peut peut-être les acheter moins cher.
Peut-être. Ils sont mis aux enchères, en tout cas, 60% du cours actuel.
À 60% du cours actuel.
Ça fait quand même très cher.
Ça reste quand même cher.
Vous avez des bitcoins, Ambline?
Pas aujourd'hui, pas sur moi.
Là, c'est risqué, hein. C'est-à-dire qu'ils peuvent coûter très cher là maintenant, mais perdre toute leur valeur dans une semaine, hein. On n'est pas à l'abri. Merci à tous les deux, c'était le Pressing du jour.
Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Et pour les doigts dans l'assiette, nous sommes dans les Pyrénées-Orientales ce matin. Bonjour Alex Thora. Est-ce qu'Alex Thora est avec nous? Ah ben on a coupé, on va le retrouver dans quelques secondes, peut-être Alex Thora dans les Pyrénées-Orientales, il est à Prades, près de Perpignan, c'est notre éleveur de porc qui fait de la charcuterie, qui fait aussi de la viande. Est-ce qu'on arrive à joindre Alex Thora? Ah ben on est en direct, hein. On l'a perdu. Alex Thora, est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, bonjour.
Ah, bonjour à vous, on vous a retrouvé. Ravi de vous retrouver, donc vous êtes notre éleveur, notre producteur de porc, vous allez bien?
Oui, très bien.
Et alors, vous vouliez nous parler d'autres produits que vous vendez aussi, parce que finalement, vous ne vendez pas que de la charcuterie et de la viande.
Oui, c'est ça. Effectivement, on a la boutique de producteurs qui est à Prades, qui va recevoir, le courant de la semaine qui arrive, la première sève de bouleau, avec laquelle on va pouvoir faire la cure de printemps.
De la sève de bouleau. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait faire une cure de sève de bouleau. Ça apporte quoi?
Alors, c'est la sève de bouleau, c'est riche en oligo-éléments, en acides aminés et en vitamine C. Et c'est un détoxifiant assez puissant. Ça renforce le système immunitaire. Et puis, ça a quand même la vertu de pouvoir traiter l'eczéma et le psoriasis assez efficacement. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui devient un petit peu à la mode, mais qui est surtout extrêmement efficace.
D'accord. Booster ses défenses immunitaires comme ça à la sortie de l'hiver, surtout dans ce contexte, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Ça vient de la région ?
Alors ça vient d'un petit peu au-dessus de Prades, à 1400 mètres d'altitude, ouais. Dans la réserve naturelle d'Ain. Donc c'est un produit qui est extrêmement naturel. Voilà, récolté par le producteur Jean-Luc Plane, qui fait ça avec passion aussi. Et donc c'est vrai que ce produit arrive là et il faut en profiter parce que c'est maintenant, ça dure un mois. Et puis voilà.
C'est une cure qui dure combien de temps ?
La cure 21 jours.
21 jours. Et donc c'est voilà. La sève de bouleau qu'on boit. C'est une boisson, ouais. Hein, on est d'accord. Ben voilà, pour mieux récupérer de l'hiver et se remettre en forme, c'est une idée que vous nous donnez depuis les Pyrénées-Orientales, Alex Thora. Une cure de 21 jours de sève de bouleau. À très vite dans les doigts dans l'assiette.
À bientôt, au revoir.
Emmène-moi loin de cette ville que je connais par cœur. Emmène-moi en plein hiver dans le port de Honfleur. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Emmène-moi voir le Japon, ses cerisiers en fleurs. Emmène-moi écouter les sirènes, envoûter les pêcheurs. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Emmène-moi, embrasse-moi à l'ombre des pommiers. Ce sera dimanche tous les jours de l'année. Yeah. Emmène-moi.
C'est le nouveau single de Julien Clerc, Mon Refuge. Premier single de son nouvel album sorti il y a quelques semaines. Terrien, Julien Clerc sur Europe 1. On retrouve Laurent Cabrol pour la météo de ce vendredi avec des températures bien fraîches, Laurent.
Eh bien oui, le froid est là, nous l'avons dit et redit, il est déjà présent, ça y est, il a envahi toute la France. Il fait -1 dans les Ardennes, 0 en Champagne, 1 degré dans le Nord, 3 en région parisienne, 5 degrés dans les Pays de la Loire. Vous voyez que vraiment le thermomètre a franchement chuté. Dans l'après-midi, puisqu'on parle de température, sachez que là, ça remontera un petit peu quand même, entre 7 et 12 degrés sur la moitié Nord, 18 à Paris, et entre 14 et 17 degrés sur les régions du Sud. Du ciel maintenant pour aujourd'hui. Ben ce matin, il y a quand même beaucoup de nuages sur l'ensemble des régions et il pleut sur le flanc est du pays. Dans l'après-midi, la pluie persistera quand même dans certaines régions comme l'Alsace, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes et l'Auvergne. Mais partout ailleurs, on peut parler du retour d'éclaircies. Alors, éclaircies, attention, ne rêvons pas. Hein, éclaircies avec de la fraîcheur, pour ne pas dire de la froidure, car le vent va venir du nord-est, il va venir presque du pôle avec des valeurs assez fortes en manche. Donc de toute manière, il fera beau sur les 4/5 de la France, mais il fera frais. Pour ne pas dire froid.
Et voilà, on a eu le printemps en février, voici le retour de l'hiver. Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Merci de nous rejoindre ce matin sur Europe 1, tout de suite un nouveau journal. Bonjour Théo Manval.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
5h30.
Il n'y a rien à comprendre ici. En 50 mètres d'écart, il n'y a pas de confinement. Où on va ? Gouvernement, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre ?
Lassitude et incompréhension dans le Pas-de-Calais. Seul département reconfiné pour les 4 week-ends à venir. 3 autres s'ajoutent à la liste de surveillance renforcée, mais seuls les grands magasins y seront fermés. Le gouvernement annonce aussi de nouveaux efforts sur la vaccination et met la pression sur les soignants dans les EHPAD et les hôpitaux. Début aujourd'hui de la visite du pape François en Irak. Première visite d'un souverain pontife dans le pays. On rejoint notre envoyé spécial sur place. Et puis le petit poucet de la Coupe de France en football cette année arrive de Martinique pour défier Angers.
Après le journal, mon premier invité dirige la rédaction du magazine Famille Chrétienne. Nous nous arrêtons avec Antoine-Marie Isoir sur les enjeux de cette visite historique du pape en Irak. Bienvenue à tous.
Europe 1, Écoutez le monde changer.
Le département du Pas-de-Calais est donc bien le seul à subir un reconfinement. Confirmation hier soir par le Premier ministre Jean Castex. 1 400 000 habitants vont devoir rester à la maison pour les 4 prochains week-ends à partir de demain 8h. C'était attendu, mais dans certaines villes limitrophes avec le voisin du Nord, on a du mal à comprendre cette décision. Comme à 8, par exemple, où s'est rendu Maximilien Carlier.
C'est un village de 1000 habitants traversé par une route nationale. Une église, une école, un restaurant fermé et juste après la boulangerie, Blaringhem. Autre commune, mais elle située dans le Nord. Sylvain, qui vit à 8, est agacé par cette situation.
Il n'y a rien à comprendre ici. En 50 mètres d'écart, il n'y a pas de confinement. Où on va ? Où on va ? Gouvernement, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre ?
Bon, cet habitant me l'a confirmé, il va tricher, les mesures de restriction, c'est non.
On va quitter le Pas-de-Calais pour aller dans le Nord, pour profiter de l'air pur. On sera libre, on ira faire de la marche, du vélo à l'extérieur.
Beaucoup de Huitois feront la même chose, selon le maire, Pascal Danvin, qui aurait préféré que les deux départements soient confinés.
Bah, c'est pas logique. Aucun sens. Aucun sens pour nous, petite commune. Je me pose la question si sur 8, on a au moins un cas de Covid. Je pense qu'il n'y en a même pas. C'est comme ça, c'est tout, c'est une décision du préfet, de l'État, je pense. On applique ce qu'on nous demande de faire, mais je pense que le cœur, il n'y est plus, quoi.
Et plusieurs petites communes rurales du Pas-de-Calais ont l'impression de payer pour les autres villes sur le littoral plus importantes qui attirent les touristes et qui favorisent le brassage. 8, Maximilien Carlier, Europe 1.
La circulation du virus a continué à augmenter au niveau national, mais moins vite que la semaine dernière, a indiqué aussi hier soir Jean Castex. 3 nouveaux départements sont placés sous surveillance renforcée. Les Hautes-Alpes, l'Aisne et l'Aube, tous les magasins non alimentaires de plus de 10 000 m² vont devoir fermer leurs portes.
Et le gouvernement rappelle à l'ordre le personnel soignant. Ils ne sont pas assez nombreux à se faire vacciner.
Un tiers seulement dans les EHPAD, comme à l'hôpital. On vous le disait ces derniers jours, le Covid est désormais devenu la première maladie nosocomiale, souvent transmise par les soignants. Alors Jean-Rémy Baudot, au sommet de l'État, on étudie la mise en place d'une vaccination obligatoire pour les blouses blanches.
Alors officiellement, c'est uniquement une piste. Le sujet a été abordé lors de récentes réunions à l'Élysée, mais plusieurs sources laissent entendre que le cœur du président ne balance plus sur cette question. La vaccination obligatoire des soignants est actuellement sur la table. La raison est simple, comment expliquer aux Français que certains réfrigérateurs sont pleins de vaccins pour le personnel médical, alors même que d'autres populations en manquent ? Seul un soignant sur 3 est vacciné, ça n'est pas normal, a déploré hier soir Jean Castex. Au ministère de la Santé, on a bien noté la défiance qui s'était installée concernant le vaccin AstraZeneca, ses éventuels effets secondaires. Mais le temps de la réticence est derrière nous, voilà ce que veut croire Olivier Véran, qui va adresser aujourd'hui une lettre aux soignants pour les remercier de leur engagement et leur demander instamment de se faire vacciner. Encore un peu de pédagogie avant une méthode plus forte. Le ministre de la Santé n'exclut pas une saisine du Conseil consultatif national d'éthique sur le sujet. Une étape de plus vers une possible obligation vaccinale pour les soignants.
Jean-Rémy Baudot. Et pour la population générale, des centres de vaccination éphémères seront mis sur pied dès ce week-end pour accélérer encore la campagne. 135 000 doses acheminées vers les départements en rouge sur la carte. Et dans 10 jours, le 15 mars, les pharmaciens pourront vacciner directement en officine les patients à risque de plus de 50 ans.
Il est 5h35 sur Europe 1. 12 interpellations dans le quartier de la Duchère à Lyon après des heurts hier soir entre des jeunes et la police.
Plusieurs voitures ont été incendiées. Ces jeunes accusent des agents être à l'origine du grave accident de scooter d'un adolescent de 13 ans qui circulait sans casque mercredi et qui se trouve aujourd'hui dans le coma. La préfecture réfute le fait qu'il ait été poursuivi par une voiture banalisée. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur se rendront, eux, à Beauvais, dans l'Oise, ce matin, où 3 policiers ont cette fois-ci été blessés en début de semaine après des échauffourées sur fond de lutte contre le trafic de drogue. Ça s'est passé dans le quartier d'Argentine, où s'est rendu Nicolas Feldman.
Les vidéos tournent encore sur tous les téléphones. Des policiers visés par des tirs de mortier d'artifice. Un peu plus loin, une voiture est en feu.
Ici. Ça parle partout, télé, réseau, tout ce que vous voulez.
Ça arrive pas souvent quand même, c'est un grand truc quoi.
Et pourtant, ces jeunes ne semblent pas surpris.
Ici, il y a beaucoup de ventes de drogue, hein. Ça circule beaucoup.
Maintenant, tu peux voir une personne, elle est là, juste à côté de toi, elle va échanger un pochon, qu'avant, c'était plus caché.
Les policiers, ils empêchent, et du coup, voilà, c'est les jeunes, ils s'en prennent à eux, et voilà.
Au pied des barres d'immeubles, les voitures calcinées ont disparu. À la place, des cars de CRS patrouillent. 60 gendarmes ont été dépêchés cette semaine à Beauvais. Mohamed Betraoui, responsable des centres sociaux.
Cette présence s'est fait ressentir et il y a une sécurisation qui est plus importante aujourd'hui. Ça dénote aussi que malheureusement sur le territoire, on aimerait espérer davantage de forces de police à Beauvais. Plus de police, ça veut dire plus de proximité, ça veut dire plus de le sentiment d'être en sécurité, vivre sereinement avec sa famille, etc.
Pour sécuriser ces quartiers, la maire de Beauvais réclame une vingtaine de policiers supplémentaires.
Nicolas Feldman à Beauvais pour Europe 1. Une grosse frayeur, mais l'alerte au tsunami a finalement été levée cette nuit en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Les sirènes ont retenti hier soir à Nouméa après un séisme de magnitude 8,1 au large du Pacifique. La sécurité civile redoutait une déferlante, finalement aucun dégât.
Ce sera une image historique. Le pape François débute aujourd'hui une visite en Irak. C'est la première fois qu'un souverain pontife se rend dans le pays.
Considéré comme l'un des berceaux du christianisme, visite sous haute sécurité pour aller à la rencontre des chrétiens d'Orient et des autorités locales avec deux moments forts. Jean-Sébastien Soldaini est notre envoyé spécial.
Le pape se rend samedi au Vatican des chiites, la ville sainte de Najaf, là où réside le plus souvent loin des regards l'ayatollah Ali Sistani, le plus haut dignitaire de cette branche de l'islam. Une rencontre en tête-à-tête organisée dans la plus grande discrétion avec tout de même trois allers-retours d'une délégation vaticane. François poursuit là son entreprise pour installer un dialogue avec toutes les autorités de l'islam, mais attention, le Vatican prévient, il n'y aura probablement pas de déclaration commune. Il faut laisser les deux hommes s'apprivoiser avec ce premier entretien privé. Dimanche, ce sera différent devant les fidèles, même si le pape ne pourra pas profiter d'un bain de foule. Les autorités locales mettent en avant le risque de contamination au Covid. Il donnera tout de même une grand-messe dans le stade d'Erbil, dont la capacité est réduite de 40 000 à 10 000 places, là encore pour respecter les distances physiques. Il n'y aura pas de Papa mobile, c'est dans une berline allemande blindée que François devrait faire son entrée dans le stade. Une voiture sans vitre teintée pour que les fidèles puissent l'apercevoir. Erbil, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Le rapporteur spécial de l'ONU demande un embargo mondial sur les armes à destination de la Birmanie. Les États-Unis annoncent même de nouvelles sanctions économiques en réponse à l'escalade de la violence contre les manifestants pacifiques, dit Washington. 54 morts depuis le début des cortèges contre le coup d'État il y a un peu plus d'un mois.
On termine avec les sports et une équipe martiniquaise qui arrive en métropole pour défier Angers en Coupe de France.
Oui, c'est la toute première équipe de Martinique qui réussit à se qualifier pour les 16e de finale. C'est la belle histoire de cette année. 5 divisions d'écart, ce qui n'empêche pas le club franciscain de rêver d'exploit pour son match qui est prévu dimanche soir. 5 divisions donc, mais aussi 20 degrés d'écart en température avec Fort-de-France. Acclimatation sur les pelouses de Clairefontaine. Pierre Herbulo les a suivis.
Bonnet, gants et lycra, les joueurs du club franciscain affrontent la douceur des derniers jours comme le pire des hivers.
On essaie de se donner les moyens pour ne pas avoir trop froid, quoi.
Mais on se sent de mieux en mieux, il faisait un peu froid au début. On commence à s'acclimater.
30 degrés sur les terrains de Fort-de-France, 10 sur celui-ci. Un choc thermique vite oublié face à la perspective pour Sébastien Lepel, électricien, de jouer un match de foot filmé à la télévision face à une équipe professionnelle.
En Martinique, on dirait que c'est la coupe phare, on va dire, parce que ça nous ouvre des portes vers la métropole pour pouvoir nous montrer, quoi. On a tout à gagner et on n'a rien à perdre, quoi.
Lâche le ballon, Kylian !
Plus de stigmates, non plus du décalage horaire sur les visages des joueurs qui travaillent leur remontée de balle. Les installations ultra-modernes de Clairefontaine galvanisent l'équipe de Patrick Cavelan.
Au début, c'était un peu plus difficile parce qu'il fallait s'adapter au temps. Et puis après, lorsqu'on a de telles installations, donc ça ne peut qu'aller pour le mieux. Puis le fait d'avoir les joueurs tous les jours H24, donc c'est intéressant pour nous pour pouvoir travailler sereinement ce match.
Un match déjà historique pour la Martinique. C'est la première fois qu'une équipe de Lille atteint les 16e de finale de la Coupe de France.
Club franciscain Angers, c'est donc dimanche soir en 16e de finale de la Coupe de France. Pierre Herbulo pour Europe 1.
Et une page sportive complète, bien sûr, comme chaque matin, tout à l'heure à 6h10. C'était le journal de Théo Manval. Il est 6h20. Et on retrouve Thierry Léger pour les pronostics du quintet.
Direction Laval en Mayenne. Pour ce quintet, parmi les 16 partants, il est impératif de retenir le numéro 3, Enzo Desartes, un vrai bon cheval, dont la dernière victoire obtenue le 16 février à Vincennes me laisse à penser qu'il devrait pouvoir, sur sa lancée, doubler la mise. L'opposition sera constituée des numéros 7, Electra du Vivier, lauréate de peu, mais avec la manière, le 11 février à Vincennes, 15, Désir de Banne, qui a souvent bien réussi sur cette piste plate lavalloise, et 8, Charmante Fierté, pas incapable ici d'accrocher une place à l'issue d'un parcours caché. Enfin, les numéros 2, Caucasien, en regain de forme, 10, Clovis Montaval, sur la montante, 12, Belphégor du Page, qui ne sera pas éternellement malheureux, et 9, Dexter Debo, qui redescend de catégorie, ont eux aussi le droit de s'immiscer à l'arrivée de ce quintet. Mon pronostic, 3, 7, 15, 8, 2, 10, 12 et 9.
Thierry Léger, merci à vous. Tous vos pronostics sont à retrouver sur europe1.fr.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Nous étions sur place dans le journal. Le pape François est donc attendu aujourd'hui en Irak, à Bagdad, et pas seulement, parce qu'il va se rendre aussi dans les villes martyrs de la guerre menée pendant des années contre le groupe État islamique, Mossoul notamment. Nous en parlons ce matin avec le premier invité du 5-7, Antoine-Marie Izoard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la rédaction du magazine Famille Chrétienne. Merci d'être avec nous. Ce déplacement du pape en Irak, c'est un événement historique ?
Écoutez, c'est un événement inédit, c'est un événement historique, et c'est d'autant plus historique que d'abord aucun chef d'État depuis, sauf erreur, l'invasion américaine en 2003, ne s'est rendu de cette façon-là, c'est-à-dire pour un voyage annoncé à l'avance en Irak, et puis parce que aucun pape jamais ne s'est rendu en Irak, et que avant lui, en particulier Jean-Paul II, avait rêvé de se rendre en Irak pour y prêcher la paix. C'était en l'an 2000, et il en avait été largement empêché par la situation géopolitique, et il l'avait très très longuement regretté.
Et non seulement il va en Irak, mais il va, et c'est peut-être le symbole le plus fort, à Mossoul, qui fut le bastion de l'État islamique pendant des années.
Bastion de l'État islamique, mais de fait, il prend plusieurs angles d'une certaine manière. Il y a plusieurs points d'attaque sur ce voyage. À mon avis, c'est d'abord une rencontre avec les chrétiens, avec un peuple martyr, un peuple martyrisé. Le pape l'a encore dit ce mercredi à l'audience générale, en disant « je viens voir cette terre martyrisée, vous qui avez eu vos maisons, vos églises, vos familles meurtries ».
Les chrétiens, ils sont évidemment les martyrs de toute cette guerre. L'Irak en comptait 1,5 million au début des années 2000. Aujourd'hui, plus que 300 ou 400 000, je crois, je voyais les derniers chiffres. Quel message on peut attendre du pape au sein de cette communauté ?
Ben écoutez, certains sur les chiffres sont encore plus pessimistes que vous et parlent de 150 000 à 200 000 chrétiens. Il faut savoir qu'en revanche, il y a des points d'espérance relative dans cette vision assez tragique de la présence des chrétiens au Moyen-Orient en général et en Irak en particulier. C'est que à Karakoch en particulier, une ville qui comptait 50 000 chrétiens au moins avant Daesh, eh bien la moitié des habitants sont revenus aujourd'hui. Et tout doucement, des familles reviennent pour s'installer par nécessité ou par besoin de revenir tout simplement sur leur terre. C'est assez légitime, mais tous ne reviendront pas. Donc ça, je pense que le pape va encourager ceux qui sont revenus au pays. Et puis, ce sont ces chrétiens qui sont déjà divisés au sens des différentes confessions, parce que c'est une véritable mosaïque, hein, les chrétiens en Irak. Le pape, qui est le pape des Latins, des Romains, a une toute petite communauté latine en Irak. Mais il y a des Syraques, des Syriaques, des Assyriens, les Chaldéens, qui sont les chrétiens les plus présents en Irak. Et c'est eux qu'il vient encourager à rester et à maintenir le message du Christ aussi dans ce pays, aux côtés des musulmans, comme ça a pu être par le passé.
Et c'est une dimension aussi religieuse, dans le sens où le pape dit venir comme un pèlerin, parce qu'il va se recueillir sur des lieux qui sont importants pour le catholicisme.
Jean-Paul II aurait voulu venir sur cette terre parce que c'est la terre d'Abraham, le père des croyants, et c'est une terre qui est chrétienne grâce à saint Thomas, l'évangélisateur, dès le 1er siècle. C'est la ville de Our. Alors c'est en plein désert, c'est pas là que le pape va rencontrer particulièrement beaucoup de chrétiens, mais c'est un lieu très important, très symbolique. C'est vraiment la terre des monothéismes, et puis c'est la terre aussi du dialogue, c'est ce qu'espère le pape. Mais c'est extrêmement difficile aussi pour le pape d'arriver, de parler de dialogue au moment où, on le sait, énormément de chrétiens ont dû partir, ont été chassés, ont été martyrisés, tués, égorgés souvent, chassés de leur maison. Et donc le pape marche un peu sur des œufs, c'est-à-dire qu'il doit à la fois encourager ce peuple chrétien, qui est son peuple, et en même temps essayer de les relier, de retrouver une forme de fraternité, comme par le passé, il y a bien longtemps, sur cette terre, avec les musulmans en particulier.
Alors il arrive dans un climat qui n'est pas totalement apaisé, avec des risques sécuritaires qui sont très nets. Hein. Encore mercredi, un civil américain est mort dans une attaque qui a visé une base de l'armée américaine. Pensez qu'il prend un risque pour sa sécurité en allant malgré tout à Bagdad? On a le sentiment qu'il y tient beaucoup, hein. Il insiste pour y aller quoi qu'il arrive.
Ah ben il insiste depuis le début, et c'est assez surprenant parce que quand ça a été annoncé il y a quelques semaines, quelques mois, bon, le Vatican prenait quelques mesures de prudence, mais le pape lui n'avait de cesse, quand il pouvait intervenir là-dessus devant quelques journalistes ou des prélats et des Irakiens en particulier, de dire mais je veux y aller. Il l'a encore redit mercredi à l'audience générale devant des fidèles et surtout en liaison télévisée pour qu'on entende bien qu'il avait envie d'y aller, de façon de se convaincre, de convaincre peut-être aussi son entourage et puis la cinquantaine de journaliste qui va le suivre dans son avion dès ce matin. Je pense que le pape a un caractère, on le connaît, ce pape François, un caractère assez affirmé.
Et ça fait partie de sa personnalité de prendre des risques.
Écoutez, moi j'ai eu le privilège de l'accompagner sur une douzaine de voyages au début de son pontificat. J'avais suivi les voyages de Benoît XVI et de Jean-Paul II auparavant. J'ai eu le privilège de l'accompagner en République centrafricaine il y a quelques années. C'était coton d'aller en Centrafrique alors que les milices dans le nord du pays s'affrontaient. Et lui voulait au contraire ouvrir là-bas un jubilé du pardon dans un pays de paix et de guerre. Mais voilà, ce qui est important pour lui, c'est d'aller aux périphéries. C'est une grande expression de son pontificat.
Et vous citiez la Centrafrique à l'époque, il avait dit être prêt à sauter en parachute sur Bangui si le pilote de l'avion ne voulait pas se poser en Centrafrique. Qui va assurer sa sécurité là-bas en Irak? C'est l'armée irakienne? Ce sont les Américains?
Alors écoutez, je suis pas très au fait pour tout vous dire de ces questions-là. Ce que je sais, c'est qu'il est de toute façon suivi aussi par des officiers sérieux de la garde suisse et de la gendarmerie vaticane. La garde suisse, c'est pas juste du folklore, hein. C'est vraiment un peu plus que ça. Mais il y a des militaires et je me doute qu'il y a là-bas une coalition pour assurer sa sécurité. Je me doute quand même que les autorités irakiennes ont voulu faire du forcing pour être les premiers à assurer la sécurité du pape. Il va se retrouver avec une voiture blindée, imaginez ça, alors que le pape François a dit depuis le début de son pontificat qu'il veut être auprès du peuple, il ne va pas pouvoir vraiment faire de bain de foule, alors il risque de nous faire une surprise ou l'autre à Erbil, en particulier dimanche, la dernière étape de son voyage, parce que là c'est le seul moment où il n'aura pas de voiture blindée, il sera dans une voiture visiblement assez ouverte pour la messe avec une dizaine de milliers de chrétiens, c'est le seul événement avec énormément de foule, 10 000 c'est vraiment pas grand chose pour le pape, vous imaginez, mais le reste du temps il va quand même aller très très vite, monter dans des hélicoptères militaires, enfin, donc il va être effectivement assez protégé, surprotégé,
et assez loin du contact avec les Irakiens du protocole. À cause de ces
certainement
mesures
de sécurité. Mais ils ont beaucoup joué aussi le côté télévisé de cette présence et l'Irak a fait ce qu'il fallait aussi pour que les Irakiens et les catholiques et les chrétiens irakiens en particulier puissent suivre le pape lors de ce voyage.
Merci à vous Antoine-Marie Ezoir pour ces précisions. 3 jours de visite donc en Irak pour le pape qui est attendu aujourd'hui à Bagdad. Je reprécise que vous êtes le directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Très bonne journée à vous.
Merci, bonne journée.
Europe 1.
Il est 5h48 sur Europe 1 et on va mettre à l'honneur les Français qui font bouger le pays, les Français qui ont des idées à travers la France. Cyril de la Morinerie, quelle est votre initiative du jour? Où allons-nous?
On va à Toulouse. En ce moment, c'est compliqué de voyager. Qui plus est quand on souffre de handicap, mais c'est quand même possible. Marie a de très très bonnes idées, vous allez l'entendre.
A tout de suite sur Europe 1 pour La France Bouge.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Un seul département reconfiné pour les 4 week-ends à venir, le Pas-de-Calais, à partir de demain matin, 8h. Mais les 3 autres départements rejoignent la liste des zones sous surveillance renforcée. Les Hautes-Alpes notamment, l'Aisne, mais aussi l'Aube. Le Premier ministre annonce que les magasins de plus de 10 000 m² y seront fermés. Il veut aussi accélérer la vaccination, notamment chez les soignants, dans les EHPAD et dans les hôpitaux. Alerte au tsunami levée en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. La déferlante redoutée n'a pas eu lieu après un violent séisme dans le Pacifique. Et puis l'arrivée attendue ce matin au Sable d'Olonne du dernier concurrent du Vendée Globe, le Finlandais Harri Hussela, 58 ans. Il aura passé 116 jours seul en mer.
Écoutez Le Monde Changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1.
Et avec vous, Cyril de la Morinerie, des initiatives positives à travers tout le pays. Nous les mettons en valeur chaque matin sur Europe 1. On était en Normandie et en Bretagne hier. On va donc à Toulouse ce matin.
À la rencontre de Marie qui propose depuis près de 5 ans maintenant aux personnes souffrant de handicap moteur ou mental, il vient de continuer à voyager même en période de Covid. Cette jeune femme de 34 ans qui a une formation de guide touristique et d'auxiliaire de vie a uni ses compétences pour créer Handy Tour Guide, une micro-entreprise qui, vous allez le découvrir, distribue du bonheur autour d'elle. En France, 12 millions de personnes sont en situation de handicap. Parmi elles, un tiers sont en âge de travailler et bénéficient de congés payés. Elles ont donc du temps pour découvrir un nouveau pays, une nouvelle région. Mais trop souvent, le projet est enterré, trop difficile d'intégrer les soucis de mobilité, de sociabilité. Marie Fournier, elle, propose du sur-mesure. En plus d'organiser le déplacement, elle accompagne son client sur place dans tous ses gestes du quotidien. Alors évidemment, vous allez me dire, en temps de Covid, les voyages sont devenus très compliqués en France et à l'étranger, ils sont extrêmement limités, c'est vrai, mais il y a d'autres solutions avec la magie d'Internet.
J'ai essayé de m'adapter au mieux à la situation, j'ai mis en place des activités en ligne pour permettre à ces personnes justement de s'évader. Parce que c'est vrai que pendant la période Covid, les parents, ils sont avec leur enfant 24 heures sur 24 et eux aussi ont besoin d'un petit peu de répit et de voir leur enfant s'émerveiller avec des activités.
Voilà, les enfants, mais également les personnes âgées. L'accès à la culture est très difficile. Alors Marie innove pour offrir à toutes les personnes à mobilité réduite des activités d'évasion et de découverte à domicile, notamment la musique, ce qui permet de rompre avec l'isolement.
Je travaille beaucoup avec une personne âgée qui a 93 ans et elle m'a joué du piano et ça faisait très longtemps qu'elle s'était pas remise au piano. J'essaie au mieux de m'adapter et de leur permettre de voyager, on va dire, à distance ou amener de la culture à domicile.
Voilà, voyager à distance, Marie est très demandée et fort de ce succès. Elle espère être rejointe par une autre accompagnatrice dans les prochains mois.
Ouais, c'est vrai que dans ce contexte, tous les moyens sont bons pour s'évader. Une fois que ce sera possible, elle réorganisera des vrais voyages.
C'est ça qu'elle faisait, parce que c'est vrai qu'on a des tours opérateurs qui ne peuvent pas forcément prendre en charge toujours les personnes à mobilité réduite. Et là, Marie les accompagne sur le terrain jour et nuit.
Bravo à elle. Il est 5h53. Merci à vous, Cyril de la Morinerie. Martin Lange, on regarde ce qui secoue, ce qui anime les réseaux sociaux. Et ce matin, vous nous parlez d'une histoire de cavale.
Oui, un braqueur condamné à 10 ans de prison et qui a fait de sa cavale un feuilleton sur les réseaux. Et alors, il s'appelle Ragnar le Dog, c'est un Belge de 35 ans, et c'est devenu une star de TikTok en faisant des vidéos où il raconte son quotidien de fugitif.
Voici quelques astuces pour rester en cavale le plus longtemps possible. En 1, évite les voyous et tous les lieux qu'ils peuvent fréquenter. Si t'as un numéro de portable, change-le tous les mois. Une écoute téléphonique, c'est un mois. Après, les flics sont obligés de demander au parquet une prolongation. Voilà mon poteau, maintenant t'as toutes les astuces pour rester le plus longtemps en cavale. Je te souhaite bonne chance.
On aura tout vu, le mode d'emploi de la cavale,
exactement.
Sur les réseaux sociaux.
Alors ce que vous venez d'entendre, c'est ses conseils pour tenir en cavale. Hein. Mais Ragnar, cheveux longs, dents argentées, se filme aussi dans les transports en commun ou pendant des parties de Monopoly avec sa femme. Il y a un an, il a profité d'un congé pénitentiaire, hein, c'est ce qui permet aux condamnés de rendre visite à sa famille. Et bien il a profité de ce congé pour se faire la malle. Depuis, ses vidéos cartonnent jusqu'à 100 000 vues. Mais conscient que son histoire peut avoir une mauvaise influence sur ses fans, hein, TikTok, qui est une plateforme prisée des jeunes ados, Ragnar ne veut surtout pas devenir un exemple.
L'avenir, je le connais, frère. L'avenir, pour moi, c'est 9 mètres carrés, des bracelets, tu vois. Il n'y a pas le choix. La prison ou la mort est un fait évident pour toute personne qui trempe dans le milieu criminel, peu importe son degré.
Ragnar le Dog s'est finalement rendu mardi dernier à Bruxelles. Il a été incarcéré à la prison de Saint-Gilles. Il lui reste théoriquement 2 ans à faire. Sauf si la justice belge décide de lui faire payer sa cavale. Plus de vidéos TikTok, donc, même si son épouse a posté un dernier message. Merci encore pour tout le soutien et l'amour que vous avez pu lui transmettre. Avant de se rendre, Ragnar avait fait part de ses projets de reconversion à ses abonnés. Hein. Se lancer dans la musique, écrire un livre sur son expérience ou devenir acteur, parce que les réseaux sociaux peuvent aussi servir à ça. Se remettre dans le droit chemin.
Oui, et se faire de la notoriété, en l'occurrence pour préparer... Oui. Son éventuelle sortie pour ce braqueur, donc aussi. Condamné à 10 ans de prison quand même. Le feuilleton de la cavale sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que du bon quand même sur les réseaux sociaux. On s'en rend compte tous les matins. 6h05, merci à vous Martin Lange. On la raconte tous les jours à 14h sur Europe 1. Vous pouvez déjà écouter l'histoire du jour sur Europe 1.fr. C'est l'histoire de la plus grande tueuse en série de l'histoire de France, l'empoisonneuse à l'arsenic. Elle a sévi au 19e siècle en Bretagne. Il aura fallu de très nombreuses victimes avant qu'elle ne soit arrêtée puis guillotinée. On la raconte en podcast dès maintenant sur Europe 1.fr.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Et on continue de vous donner des solutions et de belles initiatives pour défendre cette fois notre environnement. Bonjour à vous Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
On le sait, la période est aux mobilités douces. Hein. Le vélo connaît un vrai engouement depuis les différents confinements dans les villes. Ce matin, Fanny, on ne parle même plus de pistes cyclables, mais alors d'autoroutes à vélo que certaines villes européennes installent.
C'est ça. Alors que la plupart des grandes villes de France ont du mal à se débarrasser de la voiture en ville, beaucoup de pays européens sont en train d'intensifier leur politique pour repousser les voitures toujours plus loin de la ville, au point de construire des autoroutes, oui, des autoroutes pour les vélos. On est loin de la petite piste cyclable cohabitant avec les pots d'échappement. Dans la ville d'Heidelberg, par exemple, en Allemagne, pionnière du planning urbain durable, les voies exclusivement réservées aux vélos vont de plus en plus loin en banlieue, jusqu'à 30 km de rayon autour du centre-ville. L'approche du maire n'est pas d'aller vers la voiture électrique, pas du tout. Il préfère, au contraire, piétonniser à fond, aller chercher les citadins loin dans la banlieue avec des autoroutes cyclables.
Wow, jusqu'à 30 km de la ville, ça fait quand même 60 allers-retours, ça fait quand même un sacré trajet pour aller travailler. Donc la stratégie, Fanny, c'est quoi ? C'est on pénalise l'usage de la voiture et de l'autre, on encourage le vélo ?
C'est finalement ce qui marche le mieux. De plus en plus de villes suivent le modèle de Copenhague. Certes, cette ville a mis en place une TVA de 100% sur les nouvelles voitures pour décourager leur vente, mais elle aligne aussi ses feux de circulation sur les vitesses moyennes des vélos plutôt que des voitures. C'est ça, une smart city finalement, à tel point que les entreprises s'adaptent. Elles incorporent parking de vélos, casiers et douches pour permettre à leurs employés de venir de loin à vélo. La douche, très importante, car je ne sais pas si vous le saviez, mais l'odeur de transpiration, c'est l'une des principales causes de la réticence des citadins français à utiliser le vélo pour leur migration pendulaire domicile-travail.
Et on peut le comprendre. On sait que le nord de l'Europe, vous parliez de Copenhague, avait pris de l'avance. Ça y est, le sud aussi, mais aussi l'Espagne notamment.
Oui, à Pontevedra, le maire de la ville, en poste depuis 4 mandats, a entrepris depuis 20 ans de pousser doucement les voitures vers la sortie. Pour ça, il a rendu le stationnement gratuit à l'extérieur de l'agglomération et l'a rendu au contraire très court dans le centre, accompagné d'une amende de 150 € en cas de dépassement. En plus de donner la priorité aux piétons, en supprimant les trottoirs et en piétonnisant l'essentiel du centre-ville, des panneaux, les Metro Minutos, ont été érigés un peu partout. Ils indiquent les temps de déplacement entre les points d'intérêt de la ville. Le résultat est sans appel. Il n'y a eu que 3 morts dus aux accidents de la route en 10 ans. La circulation a chuté de 90% en 20 ans et les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 75%.
Fanny Agostini, merci à vous et à lundi.
Europe Matin, le 5-7.
Sébastien Krebs.
Écoutez le monde changer.
Bon réveil à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes le vendredi 5 mars. Le 5-7 continue. On va prendre le temps de comprendre ce matin un sujet particulièrement sensible. Après des années de tergiversation, eh bien ça y est, le cannabis thérapeutique va être expérimenté en France. Ça commence dans quelques jours pour 3000 patients atteints de maladies graves et que les traitements classiques ne parviennent pas à soulager.
Il arrive un moment donné où on a beau avoir un mental, je suis à un moment donné fatiguée, je suis fatiguée de souffrir et il faut bien trouver des solutions. Si un patient sur 15 est déjà soulagé, c'est déjà gagné.
L'attente des patients d'un côté, l'inquiétude de l'autre d'en faire une porte d'entrée, peut-être à la légalisation tout court. Ça inquiète, on en parle à 6h40 avec le député de l'Essonne, Robin Reda. Il a présidé une mission d'information parlementaire sur le sujet. Et puis notre moment musical du jour.
Déshabillez-moi.
Avec Juliette Gréco dans la partition d'Omblin Roche à 6h20. Laurent Cabrol, c'est
eh bien,
à vous.
Rhabillez-vous. Déshabillez-moi, moi je veux bien vous déshabiller si vous voulez.
Ah, voilà, vous allez nous couvrir.
Mais là il faut se couvrir, chers amis, parce que le froid est là. C'est un froid qui, pour l'instant, tant qu'il est à l'abri du vent, est tout à fait supportable. Hein. Les températures à l'abri du vent, 0 à Aurillac, 1 à Rodez, 2 à Beuville, 3, 4 à Lille, 6 à Rennes et Strasbourg, 7 à Brest, 8 à Lyon, 9 à Marseille. Paris, m'avez-vous dit ? Vous me demandez Paris, eh bien il fait 5 degrés sous abri, mais il ne fait que 1 degré en plein vent. Vous voyez que les températures ont quand même une bonne amplitude. Alors, à propos d'amplitude, tenez, toujours dans la capitale, c'est une référence, hein, il faisait 18 degrés au début de semaine, il va en faire 10 cet après-midi, vous voyez, c'est un peu le genre. Alors, à propos de température du jour, 10 à Rennes aussi, 11 à Nevers, 12 à Clermont, à l'abri du vent, hein, 12 à Lyon, 13 à Bordeaux, 14 à Nice et 16 à Marseille. Un petit mot pour vous dire le temps, sur les littorales de la Manche, le ciel est couvert, il pleut, ne vous avez pas, il pleut ici ou là, hein, attention, n'exagérons rien. Mais, soyez patients, le soleil sera là cet après-midi. Sur le Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, le Limousin, le Berry, la région parisienne, le Morvan, la Lorraine et le Rhône, éclaircies assez belles, progressivement. Sur Paris, ce ne sera pas trop mal. Un voile d'altitude sur le sud-ouest. Et puis de la pluie, franchement, sur l'Alsace, la Franche-Comté, Rhône-Alpes, Haute-Vallée du Rhône. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je suis un petit peu en retard, je me dépêche.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7.